L'Arrêt aux pages, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Le Mistigri, c'est le nom de la mauvaise carte. Il y en a de nombreuses dans cette vieille famille protestante. Certaines héritées depuis des générations, d'autres reçues par malchance, d'autres encore données en croyant faire du bien ou en voulant faire mal. Les uns les enfouissent dans le silence, les autres les combattent avec courage ou les refilent en douce. Le père, la mère, les deux fils et la fille, chacun expose son jeu. Après la mort ou en fin de vie, la parole se libère. Les souvenirs drôles ou tragiques se bousculent. La violence, la dépression et l'autisme côtoient la tendresse, la poésie et le rire. À chacun sa vérité. Je viens de vous lire la quatrième de couverture de Mistigri. L'auteur de cette saga familiale très particulière est dans Arrêt aux pages aujourd'hui pour en parler. Bonjour Philippe Vinard.
Bonjour.
Philippe, d'abord peut-être quelques mots sur vous. Donc, j'ai trouvé sur Babelio, j'ai trouvé sur le site de votre éditeur Yovana, donc je vais piquer sur eux. Donc vous êtes économiste de formation, diplômé de Sciences Po et de l'université Harvard, c'est chic ça quand même Philippe. Vous avez travaillé pendant plus de 30 ans en Afrique et en Asie, d'abord dans les milieux humanitaires, puis comme assistant technique auprès des ministères étrangers, et enfin comme consultant de votre propre société d'expertise en santé publique. Ce désir du lointain, c'est directement lié à l'histoire de famille qu'on va aborder en deuxième partie d'émission.
Oui, puisque ce que j'explique, c'est qu'une solution pour moi était la fuite. Et donc, partir à l'étranger était une manière de s'échapper d'une sorte de panier de crabes, comme on dirait maintenant. D'un autre côté, il y avait quand même, tout de suite, j'ai accroché en Calédonie. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, puisque là, c'était dans un lycée protestant qui avait été créé par Maurice Lénard. Donc, on restait dans la famille protestante. Et puis, brusquement, j'ai réalisé que je pouvais refaire ma vie en Asie, en Afrique, et donc j'ai tout reconstruit, j'ai refait des études aux États-Unis.
Petit, vous étiez déjà dans les récits de voyage, vous lisiez d'ailleurs, vous étiez un enfant lecteur, Philippe ?
Je lisais beaucoup, mais pas tellement les récits de voyage.
Jules Verne, par exemple, non ?
Oui, je crois que j'ai lu tous les Jules Verne, mais c'était... Non, j'aimais mieux les romans... je sais pas, par exemple, Cro-Blanc, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup ému, on ne sait pas si on est chien ou loup... Mais je pensais pas du tout voyager. Je m'intéressais plutôt aux dimensions sociales.
C'est les deux, Omar. Vous avez voyagé, mais quand même en restant dans cet univers-là, dans le social.
Oui. Mais c'est vrai que ça libère beaucoup. Et dans ma génération, j'ai eu beaucoup d'amis qui se sont libérés grâce à des boulots auxquels ils ont trouvé un sens à leur vie. L'humanitaire en particulier, mais pas seulement.
Vous avez fait de nombreux séjours au Cambodge, au Laos, au Vietnam, de 85 à 2013, dans le cadre du financement de la santé pour les plus pauvres, de l'organisation des soins de santé primaires pour les minorités ethniques et la prise en charge du sida. C'est vrai que 85, c'est la période où le sida, on en parle, plus qu'on en parle. Enfin, moi, je vais perdre beaucoup d'amis à ce moment-là. Hein, c'est une période charnière. En étant éloigné de la France, notamment en Asie, qui à l'époque était moins touchée, vous avez eu l'impression d'être passé un peu à côté du...
Je suis parti en 79-80. L'épidémie, le sida, a été découvert en 81-82. Ça s'est généralisé plutôt en 83-84.
Moi, j'ai souvenir, 83.
J'étais en Calédonie, on l'a découvert. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout de traitement, mais on a commencé à conseiller de mettre des capotes à partir de 83. Donc moi, j'étais à ce moment-là en Nouvelle-Calédonie, dans un lycée protestant très sévère, dans une vie assez austère. Donc j'étais préservé d'une certaine façon. Après, j'étais en Inde, au Cambodge.
C'est une idée que l'Asie et toute cette partie-là du monde a été quand même...
Pas du tout.
Elle a eu plus tard, en tout cas.
Elle a été touchée, mais à l'époque, on ne le savait pas. Mm-hmm. Mais après, des pays comme la Thaïlande et comme l'Inde ont été très touchés.
J'ai un des plus proches amis qui l'a eu très tôt, mais qui est mort en 89. Il était assez lent quand ça s'est fini. Et le rapatriement sanitaire, c'était une horreur. C'était en 89, oui. C'était encore très à vif.
Oui, après j'ai fait des missions sur le sida en Chine, par exemple, sur l'histoire de ce marché du sang, puisque le sang était vendu, d'ailleurs c'était le cas, j'avais fait ça au Bangladesh aussi, donc il y avait des problèmes de sida assez importants, il y avait beaucoup de sida aussi dans le sud de la Chine, qui était à la frontière du Laos et de la Thaïlande, souvent lié à l'héroïne.
Ah oui, oui, parce qu'on parle bien sûr évidemment ouais. du sida lié à l'homosexualité, mais enfin, moi dans mes amis, il y en a aussi qui ont beaucoup été touchés avec la drogue, hein, et c'était une seule seringue pour tous. Dans ce que vous avez vécu et qui vous a inspiré, vous êtes aussi un des 5 humanitaires français à résider autorisé.
Humanitaire, pardon.
Mais humanitaire français autorisé à résider en République populaire du Kampuchea, donc le Cambodge, entre 85 et 87, pendant l'occupation d'un régime communiste vietnamien aussi redoutable d'absurde. Ce monde-là était loin. Pourtant, j'avais déjà 25 ans, donc je devrais m'en souvenir, mais franchement, je ne m'en souviens pas. Mais c'est surtout que ça vous a inspiré, puisque c'est ce que vous racontez dans Les Sirènes du Kampuchea, de vous inspirer à chaque fois de vos rencontres, de vos moments de vie comme ça dans les bouquins. C'était important pour vous de témoigner, justement?
Nous étions très peu nombreux et avec quelques médecins des pays de l'Est, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, etc., puisque la France était du côté de Sihanouk, c'est-à-dire des camps de réfugiés. Donc nous, on était du côté des communistes vietnamiens. C'était assez dur avec le couvre-feu. Et c'est vrai, j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que le bouquin était publié qu'en 2020, oui. Mais les notes ont été faites dès 86-87. En fait, c'était une manière de prendre des distances vis-à-vis de choses qui étaient quand même assez émouvantes et dures, et donc ça faisait une distanciation qui était assez agréable, et à ce moment-là, de noter toutes ces petites histoires, et c'est comme ça que j'ai pu reprendre toutes ces ébauches de nouvelles et les retravailler avec une plus grande distance. Mais je trouve que ça m'est resté dans beaucoup de pays, d'écrire comme ça de temps en temps, c'est une manière pas d'écrire des lettres à mes amis où on a tendance à dire tout va très bien ou à être un peu héroïque, mais d'écrire des petites notes soi-même de personnages qu'on a rencontrés, qui nous ont émus et avec lesquels on peut pas communiquer parce qu'on est isolé et qu'on est seul.
Et faire paraître un livre en 2020 de notes qui ont été prises entre 85 et 87, toute la vision qu'on avait de Norodom Sihanouk, des Vietnamiens, par exemple, où on sortait quasiment de la guerre du Vietnam ou pas loin, les relire comme ça, 30 ans après, ça fait quoi?
C'est encore plus émouvant, mais je crois qu'il faut respecter ce qu'on pensait. C'est-à-dire que j'ai essayé de respecter l'esprit de mes notes. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de faire tel que maintenant je connais la situation. Mais enfin, ce qui est amusant, c'est que Hun Sen, qui venait de prendre le pouvoir, ancien Khmer Rouge, est toujours en place, mais avec un changement total de régime. Et donc, je pense qu'il faut... C'est intéressant, j'en ai fait plusieurs livres comme ça d'histoire, basés sur un contexte historique particulier. Il faut respecter, sans le faire, de point de vue de maintenant. Alors, c'est amusant parce qu'on s'étonne d'avoir un
Bien
tel
sûr.
Point de vue.
On s'étonne aussi avec le temps qui passe. Enfin, on a quasiment le même âge, Philippe. Hein. Oui. Moi, je me rappelle quasiment être contente de la chute du Shah d'Iran. On pouvait être contente et de voir celui qui était à Neuf le Château, Khomeini, arriver comme un libérateur de l'Iran, quoi. Et quand on voit ça 40 ans après,
Iran. On avait été contents du départ des Américains du Vietnam, des images assez épouvantables du départ. On s'accroche aux hélicoptères et tout ça, mais après on a un peu fermé les yeux, puis après certains humanitaires en ont parlé du régime communiste vietnamien. Et après, il faut pas oublier que
du nombre de morts qu'il y a eu aussi avec les Khmers
Rouges. Il faut pas oublier
que
l'invasion par le Vietnam du Cambodge s'est suivie d'une punition par les Chinois, qui étaient les anciens alliés, qui ont fait beaucoup de morts et qui ont envahi presque 200 kilomètres à la frontière nord, sur toute la bande côtière. Donc c'était vraiment, il y a eu beaucoup de destruction.
Moi, ça me semble très loin. Vous avez eu la chance d'être dedans, quoi. Donc cette expérience-là, moi, ça m'enrichit parce que de notre point de vue européen, tout ça, oui, on entendait Sihanouk, voilà, c'est un nom qui me parle. J'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec Jean-Marie Cambacérès, qui était ami avec Sihanouk, voilà, Sihanouk, oui. Les Khmer Rouges, on sait que ça fait de plus de 2 millions de morts, c'était une... Ouais. Mais être dedans, C'est incroyable.
Ah, on n'était pas dans le régime Khmer Rouge, ouais. Mais on était dans le régime qui a suivi l'expulsion des Khmer Rouge, dans ce point de vue-là. Donc ce que je montre aussi, c'est que quand même, les gens ont été soulagés du départ, et n'importe quel régime, aussi odieux soit-il, était quand même mieux que les Khmer Rouge.
Après, vous enseignez à Montpellier en économie de la santé, vous consacrez à la marche et au théâtre. La marche, c'est pas mon truc, mais le théâtre un peu. Donc, vous nous en dites plus sur votre amour du théâtre. Et d'ailleurs, on le comprend dans Mistigris que vous auriez aimé être comédien, peut-être.
Oui, c'est vrai, je le dis, mais Mistigris était au départ une pièce de théâtre.
D'accord.
Un duo que j'ai joué 4 ou 5 fois à deux sur une partie. Donc, c'est vrai que.
Alors, c'était qui les deux personnages?
C'était ma mère et mon frère.
D'accord.
Et j'étais ma mère.
D'accord.
Et j'avais trouvé un jeune Marocain qui jouait mon frère très bien.
C'était dans les années combien, Philippe, ça ?
On l'a joué juste après le Covid.
D'accord.
Juste avant, ça a été arrêté par le Covid.
D'accord. Donc ce parcours de comédien que vous auriez aimé avoir, hein ?
En fait, j'ai fait du théâtre même au Tchad. On avait un public captif, 2000 militaires coincés dans l'opération Épervier. Ça, c'est bien. Alors, on bénéficiait d'un superbe centre culturel de N'Djamena où il n'y avait pas grand monde et pas grand chose. Alors, tous les militaires venaient et on leur jouait pourtant des pièces assez vivant dans les branches de sassafras, qui était assez olé olé, c'était assez amusant de faire du théâtre dans certains pays comme ça.
C'est ce qui vous a donné cette belle diction ? Vous avez une belle diction ?
Oh, je sais pas, non.
Si vous avez une belle diction. C'est important la diction.
Mais j'ai pas fait de carrière dans le théâtre.
Ouais. Vous auriez aimé ?
Oh oui, je pense que ma cousine l'a fait, des gens l'ont fait, donc je... Mais voilà, c'est le hasard. Puis quand j'ai voulu partir, c'était comme ça.
Dans cette
je crois que ma mère aurait aimé...
Aimé que vous soyez comédien.
Non, ou qu'elle-même aurait...
Elle
avait fait du théâtre à la Gerbe, dans les années 30.
Vous en parlez dans le livre, une partie du livre que j'ai choisi de lire en plus. Cette bio sur Babelio, elle s'arrête avant des activités plus récentes et que je connais mieux de vous, notamment avec une volonté d'être éditeur, hein, donc avec la maison d'édition des Quatre Seigneurs. C'est venu d'où cette envie de vous-même prendre les rênes de l'édition ?
Au début, j'ai trouvé un éditeur fort sympathique, c'était Giovanna, oui. Et j'ai publié grâce à lui 3 livres, et on a beaucoup échangé. Puis après, les livres étaient moins sur la ligne éditoriale de Giovanna, donc on a décidé à 4 de se mettre à faire une maison d'édition, et Giovanna nous a beaucoup aidé à le faire. Et donc on a maintenant 13 titres, dont j'en ai écrit 3 ou 4. Et... donc, c'était un grand plaisir de s'intéresser à la pagination, à l'édition, à la couverture, à la quatrième de page, des travaux d'éditeurs. On a aussi reçu des manuscrits de d'autres personnes. Ça, c'était beaucoup plus difficile de les sélectionner et puis surtout de dialoguer, puisque nous, on n'avait pas une diffusion énorme. Et donc, ce qu'on pouvait offrir, c'était de travailler avec l'auteur pour l'améliorer. Et parfois, ça fait plaisir. Parfois, les auteurs sont très susceptibles, on sont persuadés d'avoir fait un chef-d'œuvre qu'il ne faut pas, absolument pas toucher. Et donc, ce créneau était assez tendancieux et on a eu des bonnes surprises et puis on a eu des moins bonnes. Et donc,
il y a des textes que vous avez reçus, que vous avez édités ?
Ah, beaucoup, ah, oui. Puisque sur les 13, il y en a...
Les 13 ne sont pas des amis, ce ne sont pas que des textes d'amis, un petit peu quand même.
Ils sont devenus des amis, c'est une manière de le faire, mais forcément, à partir du moment où on travaille un texte assez précisément, c'est toujours des choses intimes, forcément, on devient, et puis après, on les vend ensemble, donc on essaye de les promouvoir. Donc, c'est une relation plus... Mais il y a au moins 6 auteurs autres que notre noyau du Masrenès qui fonctionne.
Les autres livres que vous avez édités, donc il y a Les Sirènes de Kampuchea dont on vient de parler, Les Comédies Médicales, Le Moucharabier, qui est le dernier, je crois. Hein,
ah oui, non, ça c'est deux choses différentes. Ouais.
Je voulais parler de tous les livres que vous avez édités, mais parlez-moi du Moucharabier qui est...
Ah, Le Moucharabier, c'est le dernier, c'est un peu le plus dur, puisque ça parle de mes expériences de travail dans les pays musulmans, c'est-à-dire essentiellement le Moyen-Orient, la Palestine, l'Égypte, et donc ça montre aussi le monde gay, très développé et très caché, mais qui commence à être connu par la littérature, en particulier en Égypte. Mais là, ça m'a intéressé d'en faire un roman sur l'amitié, parce qu'on parle beaucoup des relations amoureuses gays, mais on parle pas souvent de l'amitié, parce que c'est souvent quelque chose de très fort entre deux hommes qu'on croit amants, mais qui sont en fait surtout d'une relation amitié avec chacun leur vie particulière.
Et puis, qu'allait-il donc faire dans le Drakensberg ? C'est où le Drakensberg ?
Alors ça, c'est au Lesotho. Ça, c'est encore une histoire de famille. C'est une vieille famille où je suis rattaché par mon arrière-grand-mère, qui ont évangélisé ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud et on a considéré dans l'historiographie officielle de ma famille, on a considéré que ces pasteurs calvinistes ont sauvé le pays parce qu'ils ont préservé son indépendance, c'est-à-dire que si ça avait été des anglicans qui viendraient, la mainmise anglaise aurait été encore plus forte, et si c'était des presbytériens ou des hollandais, ça aurait été... Donc le roi avait eu l'idée de faire appel à des calvinistes séfnols, dont mon lien de familial. Et ça m'a intéressé d'y travailler, d'essayer de découvrir ma vision, mais c'est pas une œuvre d'historien, c'est plutôt un témoignage de ce que moi j'ai découvert dans un pays qui est des montagnes absolument splendides, mais une misère énorme et un taux de sida absolument catastrophique.
Dont on parle pas.
Oui.
Dont on parle pas. On pourrait dire, avant d'écouter notre première pause musicale que vous avez choisie pour nous, qui est La Chèvre d'Arthur Honegger, on pourrait dire que vous êtes, on se connaît depuis combien de temps, Philippe ? 4-5 ans maintenant,
oui,
tous les deux.
Oui, c'est ça.
Je vous vois tellement passionné de tout. Alors, à un moment, vous êtes venu témoigner pour La Ruche des Beaux-Arts, et puis après, vous m'avez dit, viens là, à côté des mares, il y a un truc, et puis il y a la maison là-haut, et puis on sent que vous êtes, que la vie vous passionne. C'est ce que l'impression que vous donnez, en tout cas. Vous êtes passionné comme ça par plein de choses ?
Oui, j'ai une maladie, c'est d'avoir envie de faire des projets. Mmh. C'est un peu maladif parce que c'est toujours de construire quelque chose. Alors, est-ce que c'est une volonté d'entreprendre ? Mais je pense que c'est aussi... Peut-être qu'il faudrait aussi trouver une manière de voir la vie de manière moins frénétique. Mais pour le moment, j'avoue qu'il y a plein de projets qui prennent forme. Et
vous vous offrez des moments de paix ? Qu'est-ce que vous faites dans les moments de paix ? Vous lisez, par exemple ?
Là, j'ai passé tout le mois de juin en Alaska à marcher avec grand plaisir.
La marche vous amène cette paix ?
Moi, je trouve que c'est une... je ne suis pas du tout dans la méditation asiatique ou de ce monde-là, mais je suis dans la méditation par la marche, mais qui fait fourmiller les pensées. Et c'est pour ça que ça débouche souvent sur des romans, où ça permet de les retravailler, de les imaginer différemment.
Donc aujourd'hui, on reçoit Philippe Vinard, auteur, mais un jour, on recevra le Philippe Vinard, visionnaire, passionné, voilà. Et on écoute tout de suite Arthur Honegger avec La Chèvre. À tout de suite. Vous êtes toujours dans Aéropage et toujours en compagnie de Philippe Vinard qui est venu nous parler de Mistigris, cette histoire de famille, on pourrait dire une saga familiale, mais vue un petit peu autrement quand même. Philippe, rebonjour.
Rebonjour.
Peut-être déjà commencer à parler du livre en parlant du titre et de ce que c'est qu'un Mistigris. Parce que moi, honnêtement, vous m'avez appris quelque chose. Je ne savais pas que cette carte, que c'était une carte.
Ça c'est moi qui donnais une dimension. Moi, j'ai connu le jeu de cartes Mistigris, ou que certains appellent d'ailleurs le puant, ou c'est la mauvaise carte dont on essaye de se débarrasser. Et donc, ça m'a amusé parce que j'ai réalisé que beaucoup de secrets familiaux ou de problèmes étaient comme des Mistigris, c'est-à-dire que l'on les refilait ou à sa femme, à ses enfants, comme des secrets ou même de génération en génération. À l'époque, j'avais pas du tout fait de. En ce moment, il y a des tas de gens qui travaillent sur la psychanalyse intergénérationnelle. Moi, j'avais simplement m'été amusé de voir des problèmes qui se transmettaient de génération en génération et qu'on retrouvait des mêmes problèmes ou des mêmes tics et des mêmes manières de réagir.
C'est les Atrides. Hein. Oui. En pire, c'est les Atrides. Oui. Mais il y a des gens qui arrêtent à un moment, qui décident de se sortir de ça. Le livre s'articule en cinq entrées, c'est cinq jeux de cartes. D'ailleurs, vous les appelez comme ça, le jeu de la mère, le jeu du père, le jeu du fils aîné, celui du fils cadet, et en fin de livre, un texte plus court sur le jeu de la fille. Ces récits, ils sont toujours tendres. Ils sont parfois cruels. Il y a toujours un court texte en italique qui le situe où la personne, enfin le portraité, c'est pas un mot français ça, mais enfin la personne dont on va parler parle lui. Et ça commence donc par un extrait de La mère. C'était cette mise en condition du témoignage qu'il va y avoir après. Vous vouliez, c'est-à-dire que c'est toujours à l'instant de la mort.
Alors, c'est dans tout le texte que c'est la personne qui parle,
oui, bien
pas
sûr,
seulement
bien sûr.
Dans l'introduction. Mais ce que j'ai remarqué en vieillissant et en travaillant avec des personnes qui sont proches de la mort, que la parole se libère parfois et que des choses qu'ils n'ont jamais dites, et d'ailleurs ce livre même transmis à des membres de ma famille assez âgés, ont parfois eu des réactions beaucoup plus ouvertes, alors que pourtant mes phrases sont assez dures et mes critiques sont ouvertes, que je n'aurais imaginé, ou que peut-être ils n'auraient eu s'ils avaient 50 ans, mais en ayant 80 ans, en ayant toute leur tête et en étant, brusquement, ils voient les choses avec une certaine distance. Et donc, je me suis amusé à imaginer ce que pensait chacune des personnes. Alors, pour ma mère, c'est même à sa mort qu'elle, j'essaie d'imaginer ce qu'elle pense. Donc c'est un peu comme ça permet d'introduire la personne et après elle raconte elle-même sa vie. C'est la même chose pour mon frère qui était mort, et puis alors l'ordre c'est la mort de chacun, c'est-à-dire c'est le premier qui meurt par le premier. Ça permet de faire un récit choral, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir la même histoire vue par des personnages différents.
D'ailleurs, c'est très intéressant dans le livre quand les éclairages sur le même moment, par exemple, il y a l'éclairage de la mère et du père, et au début, on est très à penser que le père est en faute, et en définitive, quand on voit son témoignage de lui, on comprend certaines choses. Rien n'est aussi simple que la version de la personne qui raconte.
Oui, chacun a sa logique.
Exactement.
Alors, certains n'étaient pas tout à fait d'accord que je parle à leur place. Mais moi, je trouvais intéressant, justement, de se mettre dans leur logique, parce qu'on est toujours chacun dans sa logique. Le fait d'écrire avec un jeu et comme si j'étais mon père m'a rapproché de mon père, avec lequel les relations étaient parfois assez conflictuelles. Et donc, ça m'a permis de comprendre sa logique. Donc, je pense que... Alors, c'est vrai que je parle à la place des gens, mais je trouve que c'était une bonne manière, plutôt que de, si j'avais gardé le ton de le jeu moi-même et donné ce que je pense de chacun, je n'aurais pas eu cette empathie.
De toute cette famille qui est très large, et qui et on voit aussi du côté du frère du père, hein, de celui qui épouse la meilleure amie, le frère de la mère.
Oui, c'est le frère de la mère.
Ouais, c'est ça. Qui épouse sa meilleure amie. Et de cette famille si réussie, et des deux filles qui vont mal finir aussi, hein, terriblement
finir.
Mal finir,
enfin, qui vont se suicider. Il n'y a personne n'échappe à des drames.
Qui l'a lu? Parce que le livre est sorti en 2019. Quel témoin de tout ça l'a lu? À part votre oncle, justement.
Ah, l'oncle l'a lu.
Ouais.
Alors, il l'a trouvé très bien. Il aurait voulu que je sois même plus méchant sur certaines choses. Mais pas sur lui, alors là, forcément. Mais c'était assez drôle, mais il ne m'en a pas voulu. Et il a Bon, il y avait aussi une manière de raccourcir, puisque c'était un roman, il fallait que ça soit assez vite facile à lire, mais enfin, je n'ai pas l'impression de l'avoir trahi. Et bon, forcément, c'était un peu plus facile parce que beaucoup des personnages étaient morts.
Voilà, c'est ça, c'est que, en définitive, le plus proche, c'est lui, c'est l'oncle.
C'est l'oncle, c'est le survivant.
Quand le livre est paru. D'ailleurs, c'est amusant quand vous parlez de roman, parce que quand on s'est appelé avant-hier et je dis, oh là là, mais c'est un témoignage, c'est un roman, parce que je ne parle pas de ces cinq personnes, d'ailleurs. Je ne les ai pas... Bien sûr que c'est un témoignage, et en plus je vous connais, donc la quatrième partie, je la connais un peu. Je l'ai lu vraiment comme un roman. Mais pour moi, ce sont des personnages de roman.
À mon avis, c'est un roman, parce que les faits sont exacts, mais j'ai triché par omission. Par exemple, ma mère avait un troisième frère, mais plus jeune. Et alors là, c'était compliqué, parce que lui, il avait trois enfants, qui ont eu des tas de petits-enfants, donc j'entrais. Donc j'ai préféré l'éliminer. Mais d'ailleurs, les gens, beaucoup de gens m'ont reproché plus d'avoir éliminé certains...
Un personnage.
J'ai réalisé que les gens... Ce qui est important pour eux, c'est qu'on parle d'eux. Alors, même si on dit des choses pas très gentilles, on parle au moins d'eux. Mais ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux... Parce qu'il y a quand même pas mal...
Des absents.
Des absents, parce que ça faisait trois. Il y avait quand même d'autres cousins que je n'ai pas mis dedans. Il y avait des parties de... Même mes grands-parents paternels, j'en parle un peu, mais beaucoup
moins. Fallait qu'ils
soient
intéressants aussi. Fallait que ce soit des personnes.
À mon avis,
ils étaient intéressants aussi.
Ils étaient tout à fait intéressants. Je les évoque un peu, mais mon sujet était quand même ma mère. Hein. Mm. Je crois que tout tournait autour de ce premier personnage. Et donc...
D'ailleurs, c'est elle qui ouvre le livre et tout de suite, on comprend, hein, on n'est pas juite. C'est ainsi que se termine ma vie à 53 ans, une vie courte et bien remplie, dans un accident de voiture causé d'ailleurs, pas directement par votre père, mais...
Parce qu'il conduisait.
Il conduisait, voilà. Mais c'est quand même un fou qui lui rentre dedans. C'est pas lui.
C'est quelqu'un d'alcoolisé.
Voilà. Il aurait été moins vite, peut-être que... Voilà.
On peut toujours dire ça.
Voilà, on peut toujours dire ça. Et on sent beaucoup d'amour vis-à-vis de cette mère qui a une vie quand même difficile, un rapport privilégié avec son père, et puis après des épisodes dépressifs qui sont liés à quoi ? Vous
Alors, bien sûr, il y a tout un tas d'explications, mais je pense que très tôt, elle est entrée d'être une femme fragile. On l'appelait pas Marthe, mais Finette. C'était un nom. Elle était considérée comme très délicate. Alors, on l'a un peu maternée. Et puis après, il y a eu ces drames de son amant allemand, qu'il n'était pas possible en 47, quand elle... Même si mon père l'a pas interdit, mais il a fait comprendre que peut-être c'était mieux qu'elle revienne, et je crois que ça a été une première déception. Alors après, elle a construit là-dessus, et ça a été quelque chose à mon avis, de toute façon, dans la famille, la grand-mère était, comme on l'a appelé, bipolaire, le fils aussi, et la mère aussi. Donc s'il y a eu un problème de maniaco-dépression qui s'est transmis, mais qui, dans un contexte différent, même par exemple pour ma grand-mère, comme elle était très protégée par mon grand-père, ne se voyait pas trop. On disait qu'elle avait des petits moments un peu de faiblesse, et puis on laissait passer, on trouvait ça plutôt drôle. Mais il y a des moments où ça devient totalement dramatique, comme avec mon frère, et des moments qui sont quand même assez durs. Et c'est peut-être aussi le secret, c'est qu'on n'en parle pas. Et donc, on fait comme si ça n'existait pas. Elle fait de la dépression, mais c'est un sujet tabou.
Oui, elle s'en va tous les automnes en maison de repos, mais voilà.
Oui, c'est plus que ça, c'est un hôpital.
Ouais.
Donc, c'est quand même, on lui défait ses lacets, c'est quand même
oui,
un traitement.
Oui, on le dit, ça.
C'est quand même une humiliation assez grande.
Dans le personnage de la mère, enfin, dans la personnalité de la mère, il y a beaucoup son père. Et j'ai choisi de lire un petit morceau pour nos auditeurs, parce qu'il est amusant et qu'il parle un peu de nous. Mon père a obtenu une mutation à Montpellier et nous logions rue de l'Aiguillerie dans le centre-ville. Les façades des vieux immeubles étaient noires, les rues étroites et sales. J'aimais mieux Nîmes, une ville lumineuse et souvent préférée par les familles protestantes du Gard. Elle avait, elle, une tradition industrielle. Mais mon père avait besoin d'une vie culturelle riche et de contact avec l'université de Montpellier. Il s'occupait d'une classe de jeunes cagneuses qui l'adoraient, comme moi. À l'époque, les prépas n'étaient pas mixtes. Avec sa fine moustache, il plaisait aussi à toutes mes copines. Tout le monde le respectait pour ses activités culturelles et religieuses. Dans les années 30, il s'est impliqué dans une nouvelle paroisse, celle dite de la Chapelle, près du boulevard Gambetta. Elle se voulait plus engagée, plus sociale, que celle du vieux temple de la rue Maglone, construite sous le Second Empire, quand le maire de Montpellier était protestant. Avec d'autres grandes familles parpaillotes, souvent des cousins plus ou moins éloignés, il militait aussi à la Gerbe, une association culturelle très dynamique. C'est en effet un homme de lettres qui lisait, écrivait beaucoup. Il a publié souvent des critiques littéraires dans Réforme ou dans d'autres journaux protestants. Quand vous parlez de la mère, la personnalité du père de la mère est très forte aussi.
Oui, alors là, ce que vous venez de lire, le « je », c'est pas moi, c'est
oui,
ma mère.
Oui, c'est votre mère, oui,
c'est
bien sûr.
C'est elle qui
bien
parle
sûr,
de son
bien
père.
Bien sûr, bien sûr. Je suis dans le premier « je », et on est dans le « je » de la mère, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous ne l'appropriez jamais.
Ce passage est plutôt flatteur sur la réputation de mon grand-père, qui était une personnalité assez remarquable. Après, je suis beaucoup plus sévère avec lui. Et ça a un peu déplu, par exemple, à mon oncle, parce que j'ai détrôné
un mythe familial.
Un mythe un peu familial, un peu comme je fais sur les missionnaires, ou etc. Parce que, d'un côté, moi, je l'ai vu déclinant et puis un peu paniqué par les problèmes de ma sœur, de mon frère. Et donc, forcément, même si au début, j'ai adhéré comme ma mère à une sorte de... C'était quand même un grand monsieur. J'ai fait du théâtre pour lui. J'ai appris tout Andromaque pour le jouer devant lui. Et donc, c'est vrai que c'était...
Vous jouiez Andromaque ?
Je jouais Pyrrhus, bien sûr. C'était évident. J'avais toutes les femmes
autant des Grecs, les femmes ne jouaient pas. Donc, c'était même des hommes qui jouaient.
J'aurais préféré. Mais elles se traînaient devant moi. Et moi, j'avais ma petite jupette que je tirais un peu parce que ce costume pseudo-grec était un peu raté. Mais j'étais très fier. C'est vrai.
D'ailleurs, Pyrrhus, en lisant le livre, des fois, j'allais voir des lieux où j'allais voir des je me rappelais plus. Moi, je connais le terme de victoire à la Pyrrhus, mais je me rappelais plus quel était exactement tout le personnage. Après la mère, on vous fait parler, ce qu'on peut dire presque ça, vous faites parler votre frère. Alors il y a plein d'anecdotes dans la mère, mais on ne va pas passer non plus, il faut qu'on avance. Et sur ce fils aîné, donc, qui parle aussi au début, lui, vous expliquez d'ailleurs, il termine sa phrase de petite passage en italique, comment suis-je arrivé là ? Donc, vous expliquez comment il en est arrivé là. Vous êtes sûr de vous sur ce portrait du frère, où il y a des dimensions vous ne connaissez pas du tout ?
Je ne suis absolument pas sûr. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vu. Quand je me mets à sa place, il y a une logique propre. Je pense, tous les faits sont vrais, mais on peut les interpréter. D'ailleurs, mon père les a interprétés de manière totalement différente. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la vérité. Ce que je suis sûr, c'est que beaucoup de ses phrases, beaucoup de ce qu'il a dit, c'était son expression, sa manière de parler, et ses faits, ce que j'ai connu. Mais forcément, on aurait pu sélectionner aussi d'autres éléments.
Vous avez vécu jusqu'à quel âge près de votre père, de votre frère, pardon ?
Ah, jusqu'à ce que je parte, jusqu'à 24 ans, que je parte en Calédonie. Alors, très proche jusqu'au bac, puisqu'il redoublait les classes et moi je le rattrapais, donc on était ensemble pour le bac, et donc on était assez proches. Il était au début extrêmement costaud, sportif.
Beau,
il était,
vous assistez sur sa beauté.
Ma mère le trouvait aussi très beau, beaucoup plus beau que moi. C'était vraiment et donc il a joué forcément un rôle important dans ma personnalité, parce que c'était le grand frère qui m'initiait, qui m'expliquait. Et puis après, ça a déraillé, et après, les relations sont devenues plus difficiles.
Ce que je voulais dire aussi, souligner, alors peut-être parce que c'est générationnel, mais on peut le lire à tout âge, mais je pense que c'est un livre qui peut particulièrement toucher les gens de la soixantaine et un peu plus, parce que c'est un livre aussi très générationnel. Au niveau de la culture, je voulais vous en parler longuement, mais on fera un autre entretien. Mais par exemple, vous évoquez Georg Hagem, qui était un militant d'une cause homosexuelle et qui a été très chamboulé au moment du sida. C'est quelqu'un qui a été remis en question beaucoup par les intellectuels, Kingem.
Oui, alors mon frère n'était pas militant gay. Enfin, il a été d'une certaine façon pour libérer la société.
Il aime les hommes et les femmes.
Ce qu'il disait, mais j'ai connu les deux. Mais c'était surtout une idée de libération et de provocation. Et donc, c'est vrai qu'après, je me suis dit, j'aurais dû mieux le connaître, parce que moi, j'étais un gentil petit élève à Sciences Po, je préparais l'ENA, j'étais le bon élève, et donc forcément, c'était difficile d'avoir quelqu'un qui allait manifester de manière assez violente, qui tenait des propos très durs, qui à l'époque m'intéressaient, mais m'effrayaient un peu. Donc forcément, les rapports étaient... Maintenant, si c'était à refaire, j'aurais voulu les ouvrir, discuter de ça avec lui, j'aurais été beaucoup plus tolérant, mais avant, je me protégeais.
Et puis, il y a des choses que vous communiquez de vos passions ou de ses passions, notamment quand vous parlez des Budden Brooks. Moi, je n'ai pas lu ça, mais ça me donne très envie de le lire, puisque c'est l'histoire du déclin d'une famille d'industriels protestants avec les bâtisseurs, les profiteurs, les dilapideurs. Et bon, c'est une histoire d'une famille protestante, ça pourrait être une histoire catholique. C'est quelque chose qui est récurrent dans la littérature. On pourrait même dire les Rougon-Macquart. Hein. Il y a les bâtisseurs, les profiteurs, et puis...
Oui,
et
puis enfin, ce qui est un peu différent dans les Rougon-Macquart, quand même, Zola avait des idées très...
Il était naturaliste.
Il y avait un peu du mistigri dans l'idée de l'atavisme.
Il y avait une prédestination, presque.
Les Budden Brooks, je pense que ça a inspiré le beau roman et le film Les Damnés.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un peu l'histoire de l'Allemagne, c'est-à-dire une croissance, puis après une sorte de bourgeoisie bien installée, et puis le délire, oui. et ça s'écroule avec le nazisme. Le damné a montré ça aussi bien dans la pièce de théâtre qui était superbe que dans le roman. Alors les Budden Brooks, c'est un roman beaucoup plus long à lire et beaucoup plus sociologique, parce que ça montre vraiment la fin d'un monde.
Mais ça m'a donné, en tout cas, très envie de le lire. Et puis après, il y a le père. Alors le père, dans mes petites notes que j'ai prises, hein, voilà, je trouve qu'il est... C'est le portrait le plus dur. Alors est-ce que c'est aussi parce que vous, c'est personnel, vous lui en voulez à votre père, non ?
Ah oui, je lui en ai beaucoup voulu, ça ce serait mentir de ne pas faire. Enfin, après, je m'en suis beaucoup occupé quand il était vieux, mais je pense que... je pense qu'il y a eu une occasion manquée, que les choses auraient été très différentes s'il s'était ouvert à... Mais je pense qu'il a été... C'est son éducation qu'il a créée dans une fermeture, et aussi bien vis-à-vis de ma mère, que même s'il l'a probablement vraiment aimée, et vis-à-vis de son fils, ses deux fils.
D'ailleurs, c'est votre mère qui raconte la rencontre entre elle et votre père, une rencontre dans la paroisse. Enfin, c'est pas... D'ailleurs, jumelée avec une autre histoire, avec une amie ou quelqu'un de la famille qui regarde, qui colle la photo de son mari au plafond. Très drôle. Et qu'elle ne l'a jamais collée.
À l'époque, ma mère était surtout soucieuse de se marier, de vivre une famille. Elle n'avait pas envie dans la famille. Il y avait toujours des tantes qui ne s'étaient pas mariées, qui étaient souvent professeurs agrégés, avaient une carrière, mais elle ne voulait pas être vieille fille. Donc elle était... Mais comme elle n'avait pas pu épouser l'Allemand qu'elle avait connu, et peut-être que c'est elle qui avait finalement renoncé, elle faisait un peu un mariage de raison, mais je crois qu'elle l'avait aimé. Elle a appris à l'aimer. La plupart d'ailleurs des gens, c'était un parti qui se tenait.
Après, il a des côtés insupportables et puis des côtés tendres aussi, justement, parce qu'il l'aime. Mais enfin, bon, il y a des scènes qui sont quand même d'une violence. Bon, même si la gifle n'est pas forte, il y a l'histoire de la gifle dans la voiture. Enfin, il y a quand même des anecdotes.
À l'époque, ça ne nous choquait pas tellement. Ouais. Ça me choquait, moi, parce que c'était ma mère. Mais quand je vois le nombre de gens que j'ai connus de la génération de mon père qui avaient des... gifles ou des éléments, des moments, c'était quand même assez courant. Et sans parler même de fessées aux enfants, c'était assez courant. Il faut replacer ça dans ce contexte.
Bien sûr, bien sûr. Il y a plein de choses qu'il faut comme ça. Ce que j'ai trouvé chez ce père, c'est ce côté plaintif. Il se plaint beaucoup. Et je trouve que c'est souvent quelque chose, même que des fois on ressent chez Proust ou chez les fins de famille. C'était une famille catholique, mais moi je suis d'une fin de famille aussi, où on se plaignait beaucoup. J'ai même trouvé des échanges de lettres dans la famille où on se plaint.
Oui, je pense qu'il a été dès le début un peu un souffre-douleur, et il a considéré. Mais enfin, d'un côté, il a raté le lycée, il a dû regrimper, donc il était aussi un peu un parvenu, c'est-à-dire qu'il a rattrapé. Les arts et métiers permettent à des gens, on pense que c'est pour la mobilité sociale, mais en fait, il y a beaucoup de ratés de la bourgeoisie qui rattrapent leur niveau qu'ils ont perdu pour des raisons personnelles, etc. C'est un peu le cas de mon père. Qui était très fier de sa carrière, mais qui avait quand même une tâche au départ parce qu'il n'avait pas suivi le cursus normal et qui l'handicapait. Et donc, il s'en plaignait. Donc, c'était pour lui l'excuse quand il y avait un échec ou que ça ne marchait pas.
Rien n'est timé. Il n'y a pas de date dans le livre du tout. C'est assez intense. Il y a peu de dates. Il y a des événements.
Voilà.
Mais par exemple, votre père est mort en quelle année, Philippe ?
Il est mort il y a 5 ans, 6 ans.
Oui, c'est pas... Il y a peu de temps. Il avait quel âge ?
Il avait 92 ans, ah, 93 ans.
Il a vécu 40 ans après votre mère, quasiment.
Oui, oui. Plus de temps qu'il n'avait connu avec elle.
On est obligé d'avancer un peu et on arrive donc au jeu du fils cadet. Bon, fils cadet, c'est vous, vous dites beaucoup de choses de vous. Est-ce que ça a été la partie la plus facile à écrire, de parler de soi?
Oui, parce que j'ai dû me censurer beaucoup, parce que forcément, je voulais pas que ça soit trop gros. Je voulais que ça soit simplement ma vision des faits que j'ai décrit précédemment, vu par mon père ou vu par... Donc, il fallait quand même élaguer, sinon je racontais ma biographie. Et c'est surtout pas ce que je voulais faire.
Je laisserai aux auditeurs le soin de découvrir toute cette partie-là. Bon, vous parlez, vous témoignez de ce que vous avez fait, des gens que vous avez rencontrés, des gens que vous avez aimés aussi. C'est passionnant. Et le livre se termine très étrangement sur le jeu de la fille. Et on n'en a pas parlé depuis le début de la rencontre de votre sœur, donc qui a eu une malformation à la naissance, un palais...
Non, je pense qu'elle avait un handicap beaucoup plus lourd, mais c'était pas elle était anormalement anormale. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas, et donc il y a eu une sorte de tabou. On n'a pas considéré, si elle avait été mongolienne, comme on disait à l'époque, ça aurait été accepté. Puis alors après, mon père s'est rattaché à l'idée qu'elle est autiste, parce que autiste, il y avait des gens très intelligents qui étaient autistes, ça le consolait, puis il y avait un mot qu'on donnait, mais alors, ça fait que c'est devenu un mistigris parce qu'on n'a pas voulu le reconnaître, et même ma mère, on lui disait pas, et alors on voulait pas. Donc ça rendait le deuil encore plus lourd, puisque c'est une sorte de deuil de savoir que son enfant serait handicapé à vie et qu'elle n'a jamais parlé. Donc le fait de lui donner la parole, ça m'a amusé, mais je l'ai vécu avec elle beaucoup de moments, aussi après le décès de ma mère, puisque je m'en suis occupé, même si elle allait dans des établissements. Alors certains ont considéré, alors c'est un peu, c'est là je parle vraiment à sa place, mais les éducateurs qui s'en occupent, on va trouver ça plutôt amusant, et ils ont dit, vous savez, ne vous inquiétez pas, ce que vous dites n'est pas forcément vrai, mais nous faisons ça aussi, parce que c'est quand même très difficile de vivre tout le temps avec une personne dont on ne sait vraiment pas vraiment ce qu'elle pense. Elle peut sourire, mais elle change très vite de sentiment, donc forcément on projette, mais les histoires elles-mêmes sont vraies, mais la manière dont elles s'interprètent. Alors ça m'a amusé un peu comme quand on parle des servantes de Molière qui disent la vérité, elle est celle qui est finalement la plus sensée de tous les autres, parce qu'elle est en dehors de... Et puis elle n'a pas besoin de parler, elle trouve que tous les gens parlent beaucoup trop, et donc elle a un œil qui est finalement plus rationnel vis-à-vis de tout ce petit monde.
D'ailleurs, c'est elle qui termine le livre. Finalement, je suis comme un chat. J'aime bien cette bête. Elle observe avec des grands yeux immobiles, pas comme ceux larmoyants des chiens et des hommes. Elle est patiente et individualiste. Elle ne s'attache pas. Elle se laisse parfois caresser, puis part quand elle veut, après avoir jeté un sort. Le mistigris, désormais, c'est moi qui le garde. C'est chouette de laisser le dernier mot à quelqu'un qui ne parle pas.
Oui, alors bien sûr, c'est une image. C'est pour ça qu'il y a une partie d'imagination. Et je ne crois pas au mistigris. Ce que je crois, c'est quand même au méfait du secret. C'est-à-dire que quand on n'a pas parlé des choses, c'est pour ça que certains m'ont dit pourquoi écrire un tel livre. Moi, j'avais un peu envie de dire, pour casser les mistigris, il faut dire les choses.
Bien sûr.
Et donc, le fait que ma sœur garde le mistigris, c'est l'air de dire, j'ai pas besoin de parler, Alors, bien sûr, d'un certain point de vue, c'est où est son handicap, qu'est-ce qu'elle pense vraiment, combien de temps va-t-elle vivre, on ne sait pas.
Ce qui est formidable aussi, c'est de traverser un livre qui parle de mort, de suicide, d'autisme, et d'en sortir revigoré. Moi, j'en suis sortie revigorée.
J'ai essayé d'en faire un livre assez gai, parce qu'il y a beaucoup de petites histoires qui sont quand même drôles, parce que c'est des histoires de famille, et surtout la manière dont chacun les interprète, ça nous amuse.
Mais le ton donné par le survivant, c'est super. On va écouter un petit bout de Mathilde de Jacques Brel que vous avez choisi pour nous, et puis peut-être nous dire pourquoi, et on se retrouve pour conclure. A tout de suite, Philippe Vinard.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te plains. pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà.
Et vous, mes mains, restez tranquille. Là, je commets un crime de lèse Jacques Brel. En plus, c'est une chanson que j'adore. Il y a des chansons qui foutent le frisson, comme ça. Mathilde en fait partie. Ou Göttingen du Barbara. Voilà, c'est des chansons qui. Pourquoi ce choix d'ailleurs, Philippe ?
Mathilde, c'est ma mère. Ah, bah voilà. C'est que c'est vraiment une femme forte, une femme qui a des. Qu'on attend, qui prenne l'énergie, c'était la femme que je voulais, c'est-à-dire, enfin, la mère que je voulais, c'est-à-dire celle qui n'était pas la femme dépressive, auquel on mentait parce qu'elle était délicate, il ne pouvait pas lui dire, elle n'aurait pas supporté. C'est celle qui était l'ouragan et qui se. Et à la fin de sa vie,
qui l'a été trois ans.
Trois ans,
qui a été Mathilde trois ans.
Qui a été militante.
Marthe a été Mathilde trois ans.
Elle a été, justement, elle a travaillé à la CIMADE. À l'époque, c'était pour pas l'évangélisation, surtout pas. C'était l'alphabétisation vers Palaiseau. Il y avait des bidonvilles où elle travaillait pour le. Et puis le combat sur l'avortement, puisque c'était quand même très dur qu'elle dise que si elle avait su, elle se serait fait avorter, ce qui lui a valu beaucoup de lettres d'insultes. Donc c'était la femme forte que je voulais et que j'ai connue quelque peu de temps, mais mon sentiment, c'est que si elle avait été dans un autre contexte, la Mathilde, elle aurait commencé dès 15 ans.
D'ailleurs, ce regret de cette vie qui n'a duré que, de cette vraie vie qui n'a duré que 3 ans, c'est ce qui clôt le chapitre L'Almère. Philippe Vinard, on se quitte dans 3-4 minutes. Aujourd'hui, donc, c'est une petite maison d'édition. Comment on fait pour se faire connaître ? Vous êtes présent sur pas mal de salons. Vous aimez d'ailleurs, vous semblez aimer quand même ces rencontres avec les auteurs.
Ah oui, moi
les lecteurs, pardon.
J'ai découvert le. C'est pour ça qu'il faut écrire assez vite pour quand même après être en forme pour rencontrer ceux dont on parle ou ceux qui s'y intéressent à ce sujet. C'est parfois un peu conflictuel. J'ai eu des gens qui étaient choqués, qui ont été. Mais je trouve que il y a une histoire après chaque livre. C'est ça qui m'intéresse. Donc, nous accueillons souvent des manuscrits. Alors, on est assez clair, très vite. Il n'y a pas beaucoup qui nous plaisent, mais le point essentiel, c'est d'être avec quelqu'un qui veut travailler avec nous. Si c'est quelqu'un qui considère qu'il est génial et que son bouquin est parfait, ben, qu'il trouve un éditeur. Nous, ce qu'on voudrait, c'est travailler avec des gens qui sont.
C'est intéressant, vrai travail d'éditeur.
Mais ça se fait de beaucoup. La plupart reçoivent simplement une lettre en disant ce n'est pas dans notre ligne éditoriale. La susceptibilité d'un écrivain est aussi très forte. Alors, on essaye aussi de chercher. Alors, récit ou roman, cette querelle est ridicule. Ce qu'on aime, c'est que l'imagination se fasse. Là, c'est un récit. Toutes les faits sont vrais, mais la plupart de mes bouquins. Mais en fait, j'ai laissé aller aussi mon imagination. Il y a dans l'interprétation, il y a des choses qu'on a trichées. Donc, on est assez ouvert. Alors c'est vrai que les récits ou les romans sur la région nous intéressent plus particulièrement. On s'intéresse beaucoup plus au voyage, puisqu'on a tous vécu. Moi, j'ai vécu quand même aussi. Là, on a parlé du Cambodge, mais j'ai vécu quand même 10 ans en Afrique, dans des pays où j'ai écrit des romans là-dessus, le Zaïre, le Tchad. Donc c'était intéressant d'avoir un regard autre. Donc ça, c'est vrai. Mais on n'est pas pour un roman de voyage. On est plutôt.
C'est pas une maison d'édition de voyage, Yayovana.
Oui.
Bientôt le temps de se quitter, Philippe. On va se donner d'autres rendez-vous. Merci beaucoup, en tout cas. J'espère qu'on aura donné à nos auditeurs l'envie de lire ce Mistigri, paru aux éditions des Quatre Seigneurs et disponible sur Internet. Il n'y a pas de problème, vous tapez le nom. Ou dans des salons auxquels Philippe participe.
D'accord. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci, Philippe Vinard. À bientôt.
À bientôt.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.